C'est une plongée dans le monde du cinéma que nous faisons aujourd'hui aux côtés d'Odile MacDonald. Productrice dans l'industrie de l'audiovisuel et fondatrice de Wildcat Productions et Madame Film, elle nous raconte son saut dans la vie professionnelle. Des plateaux de cinéma au bureau de production parisien, elle nous raconte son parcours, les négociations qui ont émaillé son chemin, professionnel ou personnel, et qui font écho, j'en suis sûre, à ce que nous pouvons vivre toutes, quel que soit notre trajectoire, notre métier ou notre secteur d'activité. Une ode à la confiance, à la sororité et à notre capacité à traverser l'existence de manière collective et puissante. Merci Odile pour ta gentillesse, ta grande sincérité et ces messages optimistes. Bonne écoute. Bonjour Odile.
Bonjour chère Julie.
Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Les Négociatrices. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, pour démarrer, te présenter, donc nous donner ton nom, ton prénom, ton parcours et puis ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, s'il te plaît.
Avec grand plaisir. Bonjour. Donc Odile MacDonald, je suis productrice d'audiovisuel, de fiction audiovisuelle, depuis de très nombreuses années maintenant. Je suis née et j'ai été élevée à Montréal et je suis arrivée en France, j'avais à peine 20 ans. C'est donc en France que j'ai déployé mon parcours professionnel, mais en gardant toujours une présence très forte de cœur et de tête au Canada et plus particulièrement au Québec, ce qui m'a permis de déployer mon activité à la fois en France mais aussi dans le cadre de coproductions internationales. Donc produire... c'est souvent un métier un peu méconnu, mais oui. Produire, c'est la chef d'orchestre qui va mettre en relation et en capacité d'exister tout ce qui va faire qu'un film existe. Donc les idées, les talents et les ressources financières pour que ça existe. Avant, le temps du développement, pendant, le temps de la fabrication et après, le temps de son exploitation. Voilà. Mais en fait, c'est raconter des histoires et c'est ce qui m'anime toujours aujourd'hui.
Et c'est ce que tu aimes. Bah, je suis ravie parce que justement, au-delà de ton parcours à toi, on va découvrir aussi ce monde-là. Toi, tu as grandi au Canada, à Montréal, dans ce milieu justement de la production artistique, du cinéma, ou c'est l'inconnu pour toi ?
Alors, pas du tout. J'étais fascinée par le cinéma. Et donc j'ai commencé mon parcours en imaginant être comédienne. Et j'ai eu la chance quand je suis arrivée à Paris de tourner un petit peu ce qu'on appelle des panouilles, hein, des petits rôles avec Philippe Noiret, avec Valérie Caprisky, et de me rendre compte qu'en fait vraiment ce qui me passionnait c'était de raconter des histoires et que j'avais envie de les raconter en étant de l'autre côté de la caméra. Et donc je me suis un peu été interrogée après entre la réalisation et la production et je pense que le côté organisation justement de la production, puisque je suis rentrée vraiment par en bas de l'échelle,
ouais, et puis très terrain, j'ai grandi. Tu es rentrée par les plateaux et après tu as construit tout ça.
Mais me plaisait, ouais, me plaisait. Beaucoup. Et puis, mais c'est de l'organisation, mais c'est aussi de la... Donc je parlais de mise en relation humaine. Ouais. Donc il y a un côté... j'ai parlé de chef d'orchestre, mais il y a peut-être un petit côté aussi mama. Je pense que j'ai peut-être un côté mama italienne. Très, très jeune d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait des membres de l'équipe avec qui je travaillais souvent, un directeur de production, et qui m'appelait Tante Odile. Ah. Je pense qu'il avait bien 20 ans plus que moi, et il m'appelait Tante Odile. Ah, j'avais peut-être 35 ans, ça m'avait un peu vexée. Puis après, je m'étais rendu compte que c'était en fait parce que j'étais comme ça, la tata de...
Oui, la tata, mais quand même qui vise, qui sert, qui sait à quel moment il faut être à l'heure, à quel moment on peut rigoler. Enfin, j'imagine qu'il y a tout ça, finalement, tout ce panel dans ce métier-là.
Oui, alors c'est un métier... très très réglementé en fait, réglementé où sur un plateau, quelqu'un qui connaît pas va arriver, va trouver qu'il y a beaucoup de monde, avoir l'impression qu'il y a des gens qui font rien, et en fait c'est très codifié, très, quand on arrive le matin, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun est là pour une tâche très particulière, donc c'est en amont que tout ça se prépare, mais il n'y a pas tellement place à l'improvisation.
Et oui.
C'est ça. Et alors là, on va repartir un peu dans le temps parce que tu grandis au Canada, a priori plutôt en voulant devenir comédienne. Ça, c'est un truc déjà petite où tu savais que tu aimais faire le show, ça t'intéressait ou c'est venu sur le tard au fil des discussions?
Je pense que c'était vraiment les histoires qui m'intéressaient. J'ai toujours beaucoup lu.
Oui.
J'étais une enfant assez solitaire qui a beaucoup, beaucoup et très tôt lu. Et donc, je pense que cette idée de comédienne, c'était plutôt l'idée des histoires,
de raconter
des histoires. Ouais. Et ça reste encore pour moi aujourd'hui la plus belle chose dans mon métier quand un scénariste ou un réalisateur ou un vient me voir et me dit « Alors voilà, j'ai une histoire à te raconter. »
Ah, génial. Oui, on retrouve le frisson de quand tu étais plus petite, justement. Et tu nous dis « Je suis arrivée à Paris à 20 ans. » Ça, c'est quand même une sacrée décision, non, quand on est...
19 ans, en fait.
19
ans. Venez d'avoir 19 ans.
C'est ouais. tout petit, enfin, quand on regarde. Comment tu as pris cette décision-là? Comment ça s'est.
Mais parce que j'étais fascinée de cinéma. Et bien que le cinéma québécois aujourd'hui est absolument formidablement une grande vitalité, c'était peut-être moins le cas à l'époque. Et le cinéma français me faisait rêver.
Ouais.
Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, c'était François Truffaut. Pour moi, le cinéma, je suis québécoise francophone, pour moi, le cinéma, c'était le cinéma français.
Ouais.
Donc j'ai saisi une opportunité. Je suis arrivée à 19 ans à Paris avec 500$ en poche et un billet aller-retour dont je n'ai jamais utilisé le retour.
Ah ouais, c'est joli comme anecdote finalement. Et quand tu es arrivée à Paris, que tu as démarré, parce que c'est quand même des milieux difficiles, ça, les castings, les plateaux, les rôles.
Alors je gagnais des sous comme mannequin, ce que je faisais déjà à l'époque à Montréal. Maintenant, Montréal, c'est une toute petite ville. J'étais gentiment mannequin, je faisais 3 photos, ça me payait mon loyer. À Paris, c'est autre chose, il y a une énorme compétition. J'étais très petite pour être mannequin, donc j'avais menti sur ma taille, je me grandissais. Et puis c'était une compétition féroce avec un nombre de filles. Il y a un milieu dont on sait aujourd'hui, mais c'était... Enfin, ça se savait à l'époque, mais ça se savait que dans un milieu un petit peu plus restreint, mais ce n'était pas un milieu très, très sain. Mais voilà, donc je suis arrivée et c'était compliqué parce que j'avais du mal à... En fait, pour réussir à faire les 2-3 photos nécessaires à payer mon loyer et mes cours de théâtre, il fallait que je fasse des castings à longueur de journée. Donc, je n'avais plus le temps pour faire ce pourquoi j'étais venue, qui était de pouvoir explorer ce métier du cinéma qui me fascinait et qui m'appelait. Et après, mais par opportunité, en fait, effectivement, j'ai quand même réussi à tourner un peu dans des pubs, puis au cinéma, et rencontrer l'homme qui deviendra le papa de mes enfants, et avec qui j'ai commencé à travailler en pub, sur des plateaux, en production, en pub.
Donc une grande rencontre en fait pour toi.
Oui, comme une rencontre importante. Et donc c'est ensemble, plusieurs années après, qu'on va fonder PM, la société de production avec laquelle on a commencé à faire ensemble la télé. Donc lui était déjà producteur, il avait déjà produit du cinéma et était producteur de publicité quand on s'est connus. Et ensemble, on a commencé la grande aventure de la production audiovisuel.
Et donc pour toi, j'imagine, ça devait être assez fabuleux. Toi qui aimes tant les histoires, les rencontres, tout organiser au cordeau, te retrouver là au cœur d'une société que tu co-diriges en plus avec ton partenaire dans la vie. Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là quand tu arrives dans ce job-là?
En fait, je suis pas arrivée dans ce job-là parce que les choses se sont fait tout doucement. Donc on se rend...
Ouais, c'était la conséquence finalement de.
On se rend pas compte. Hein, c'est une évolution. On commence par faire donc les films de pub, puis on produit les courts-métrages, puis on se dit on va faire de la télé, puis quand même ça va être plus facile.
Non, en fait.
et les choses se font, au fur et à mesure. Donc on se rend compte du chemin parcouru que quand on se retourne derrière et on regarde, on fait waouh.
En fait,
incroyable. Et puis on ignorait que c'était impossible, alors on l'a fait.
Exactement. Très jolie citation qui fonctionne. Tu peux nous parler de certaines grosses productions ou de projets toi qui ont été très impactants pour toi, qui ont beaucoup compté ou tu vois t'es sortie de là en n'étant pas la même Odile que quand tu es arrivée sur le projet?
Alors forcément, il y a des rencontres, hein. C'est comme tout dans la vie. mais c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec Alain Delon et de faire donc une grande série télé avec lui, six fois une heure et demie. Donc on a travaillé longtemps ensemble. Et c'est quelqu'un d'assez fascinant, d'extrêmement intelligent et qui à un moment, donc j'étais assez jeune, j'avais 33 ans, mais m'a appris ou réappris, connecté ou reconnecté à une exigence absolue. Mmh. Parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, mais d'abord et avant tout avec lui-même. Mmh. Ce qui lui permet de l'être avec les autres.
C'est mieux.
Et ça m'a... Oui, il m'a appris ça, mais de façon tellement... Je ne sais pas comment dire, ça m'est toujours resté. Et je le sais, ça me reste toujours. Et je ne néglige jamais ça. Toujours être exigeant, toujours être exigeant avec soi-même.
Oui, aller au bout, revérifier.
Oui, et jamais s'asseoir sur ses lauriers, jamais se dire que quelque chose est acquis. Ou voilà, donc ça a vraiment été une belle expérience. Pardon pour l'anglicisme, un stepping stone. On en sort un petit peu plus grand. C'était une grosse production, c'était ma première, il me semble, grosse copro inter. J'en avais déjà fait avant, mais c'était quand même une coproduction avec plusieurs partenaires autour de la table, les Italiens, les Allemands, les Français. Voilà. Et puis j'ai envie de vous citer aussi, vous connaissez un peu le projet Ransom.
Oui.
Mais donc là, c'est une nouvelle aventure. Entre-temps, donc je fais un grand pas en avant, mais entre-temps, je me suis séparée du papa de mes enfants. Et donc, après avoir pensé qu'on pourrait travailler ensemble, on s'est dit que finalement, c'était pas une bonne idée. Donc, on s'est également séparés professionnellement. Et la première production que j'ai faite au sein de Wildcats, qui est aujourd'hui la société de production que j'anime, c'était Ransom, qui était une grosse coproduction internationale et basée sur l'expérience et le savoir de négociateurs.
Oui.
Je peux les citer.
Bien sûr, avec plaisir.
Marouane Méry et Laurent Combalbert. Et donc là, c'était une nouvelle façon de travailler sur des formats de séries qui sont produits tels que les studios américains le font, contrairement à en France. En France, on commence vraiment par terminer un scénario, un texte, une grosse partie avant de passer à la suite. Et on n'a pas la même chronologie de commande d'une production, alors que dans les studios américains, si on est tous d'accord sur le pilote, qu'il soit tourné ou simplement écrit, on lance la production. Et là, après, on fait tout en même temps. Donc là, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'était extraordinaire.
Ah oui.
On prépare, on écrit, on prépare, on produit, on post-produit et même à la fin, on commence à diffuser tout en même temps. Donc, on a 5 cerveaux toujours activés.
Gestion de planning au maximum, là, quand même.
Il y a un type qui fait que ça, qui s'appelle un planeur.
Oui, qui porte bien son nom, pour le coup.
Je sais pas, les writing rooms. Donc, le même métier que j'exerçais déjà depuis 20 ans, mais d'une autre manière. Et donc ça, c'est extraordinaire, en fait, de découvrir qu'on peut exercer son métier différemment, ailleurs, autrement, continuer toujours à apprendre. Donc ça a été vraiment aussi une très belle expérience et qui m'a prouvé, parce que mine de rien, je partais donc accompagnée de mon associée à l'époque, Valérie Péchels, mais voilà. Puis en fait, t'es capable, Odile.
Oui,
t'es capable,
c'est puissant ça, parce que j'allais dire, en plus, c'est quand même une période de ta vie où tu t'es lancée dans cette activité professionnelle en binôme avec ton mari, enfin le papa de tes enfants à l'époque, et ça s'arrête. Est-ce que toi, tu as douté à ce moment-là, ou finalement, il n'y avait pas de sujet, le business continuait, show must go on, et tu vois, pour nous dire finalement, en me retournant, je me suis dit, ah, j'ai réussi, je l'ai fait.
Alors, j'ai jamais douté qu'il fallait que je continue, mais oui, j'ai douté de moi. Oui, j'ai douté de moi, et j'ai pas de regrets, mais quand je regarde derrière, je me dis que le manque de confiance, c'est comme la culpabilité, ça ne sert à rien. C'est des pensées
qui nous encombrent, qui nous fatiguent aussi beaucoup.
Et maintenant, j'ai davantage confiance parce qu'effectivement, le chemin parcouru, je me dis, mais en fait, c'est bon,
Bien sûr, capable. Je saurais faire. Oui, oui. Et ce qui est intéressant là, dans ce que tu nous racontes, c'est l'expérience du réel, quoi, où finalement tu t'es retrouvé dans cette méga production, parce que donc il y avait des Canadiens, des Américains et des Français pour et, Ransom en l'occurrence.
Et des Allemands.
Et des Allemands en plus. Donc quatre. Et toi, en tant que productrice principale, du coup, Wildcats, c'était vous qui aviez la main sur le.
Alors on avait avec Wildcats, on avait créé le. On était à l'origine de l'idée originale. Et c'était une coproduction officielle avec le Canada.
Oui.
Donc, dans le cadre de ces coproductions, il y a donc deux producteurs, Wildcats et Sienna Iguane, en l'occurrence au Canada. Et pour réussir à assurer le financement, un distributeur qui était le même que le producteur canadien. Donc, il y avait un petit peu un déséquilibre.
Dans le rapport.
On avait un partenaire qui, bien que nous eussions dû être à égalité, le rapport de force pouvait être faussé, et d'autant plus que c'était un studio qui avait l'habitude de travailler comme seul studio. Il fallait sans arrêt leur répéter, nous sommes partenaires, nous sommes coproducteurs. Et la France a tout à fait son mot à dire. Donc c'était, en termes de négociation, là...
J'allais y venir.
Ça a été un vrai challenge. Finalement, ça a été la chose la plus difficile. La production elle-même, la production, c'est un métier de prototype. Donc, de toute façon, chaque film, on ne l'a jamais fait. Chaque série, on ne l'a jamais fait. Même une saison 2, on ne l'a jamais fait. Et il faut être prêt à embarquer sur une traversée. Même si on a déjà traversé l'Atlantique, en fait, si on la retraverse...
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Ouais. Si on le retraverse, pardon, c'est pas la même chose. Donc finalement, produire en soi, c'était pas la chose la plus difficile. C'était... les négociations.
Ego. Et ça, alors, est-ce que tu l'avais anticipé, ou au contraire, c'est un truc que vous avez pris le plein fouet? Comment t'as géré, toi, face à ces partenaires canadiens là, qui challengeaient, qui voulaient...
Non, je ne l'avais pas anticipé. Je goûte l'ironie du fait que c'était une série sur un négociateur. La chose la plus difficile aura été la nature des négociations, mais non, je ne l'avais pas anticipé. Et puis, là, pour le coup, j'ai construit l'avion en volant dedans.
Ah, j'adore cette expression canadienne dont tu m'as parlé tout à l'heure.
Je peux vous le faire avec l'accent.
Ah, s'il te plaît.
On a construit l'avion en volant dedans.
En volant dedans, super. Oui, oui, oui. C'est très révélateur de finalement ce qu'est ce métier où, comme tu dis, il faut un grand lâcher-prise. Avec une ambivalence où tout est archi sous contrôle et en même temps, à chaque fois, on vient dans une histoire qui n'existe pas. Et donc, c'est la remise en cause perpétuelle, finalement.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que la confiance est très, très importante. J'ai une grande, grande amie québécoise qui est une femme d'affaires absolument remarquable et grande sportive et qui m'a initiée au ski de fond. Et elle m'a initiée au ski de fond en m'amenant dès la première fois hors piste, en pleine forêt. Ou même en ski alpin, quand je skie avec elle, elle me dit « t'es capable, Odile, t'as des bonnes jambes. T'es capable, Odile, t'as des bonnes jambes. » Et c'est un mantra que je me suis beaucoup répété dans des situations professionnelles.
Oui. «
T'es capable, Odile, t'as des bonnes jambes. » Mais voilà.
Oui, mais ça fonctionne en fait. Finalement, ça aussi permet à ces émotions-là qui peuvent nous submerger. D'un coup, on a peur, d'un coup, on ne se sent pas à la hauteur. Enfin, plein de choses qui sont charriées par notre histoire ou certains trucs. On les met un peu à distance et on garde l'énergie pour être dans l'action, finalement, pour skier ou pour produire les films. Et on discutait tout à l'heure sur le milieu de la production. Il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là, aujourd'hui et hier.
Alors, je n'ai pas les chiffres de productrices pour ce qui m'intéresse. Mais là, justement, à La Rochelle, on a partagé... des chiffres sur la représentation des femmes. Alors, France Télévisions, Delphine Ernotte, Anne Holmes font un travail exceptionnel, nous encouragent exceptionnellement. Delphine s'est engagée à la parité sur les réalisatrices. Aujourd'hui, c'est plus de 30% des films, des fictions qui sont diffusés sur France Télévisions qui sont réalisés par des femmes. Et merci Delphine Ernotte, merci Anne Holmes. On essaye avec le CNC, on fait plus qu'essayer, le CNC a mis en place des incitatifs pour avoir une parité sur les chefs de poste.
Oui, là aussi, où il y avait beaucoup d'hommes peut-être historiquement sur ce métier-là.
À part la script, et c'est vrai que les chefs de poste étaient historiquement beaucoup des hommes. Moi, j'ai vu passer des chiffres où on a en audiovisuel particulièrement, quand même, dans les sociétés de production, une belle parité. Mais ce qui est inquiétant, c'est de constater que il n'y a pas la parité en termes de rémunération. Mmh. Et que souvent, il y a une parité parce qu'il y a beaucoup de postes de soutien, donc les assistantes, mmh. les administratrices, les adjointes comptables sont des femmes. Mais dès qu'on monte...
Oui, c'est ça. Ce n'est pas une parité réelle à proprement parler encore pour l'instant.
Et je pense qu'il faut vraiment... Là, il faut continuer sur tous les fronts. Et c'est pour ça que j'ai rejoint PFDM, pour les femmes dans les médias, qui est à l'origine de la charte sur la parité qui a, été signée avec la plupart des grands acteurs de ce métier et des diffuseurs. Mais il ne faut, faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Il y a des belles avancées qui sont faites, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Il faut continuer à chercher partout les façons de former les jeunes femmes qui arrivent et de soutenir celles qui sont là.
Qui sont en place.
Et notamment, je pense à un programme qui a, au Québec, à la SEDEC, il me semble que c'est la SEDEC, a mis en place un programme pour aider les femmes qui travaillaient dans des sociétés de production à devenir partenaires, donc avec des systèmes de prêts pour qu'elles puissent devenir equity partner.
Et oui, parce que derrière, c'est une histoire aussi de financement qui donne du rapport de force et auquel les femmes avaient peut-être moins accès ou moins l'idée d'y aller, non ? Peut-être, toi, tu constates ça dans
Oui, je pense que... Alors, on en a parlé récemment pour les femmes dans les médias sur donc, les outils de prise de parole pour corriger certains biais que les femmes peuvent avoir quand elles prennent la parole, être à l'aise, savoir prendre la parole, se débarrasser des tics de langage. On n'a pas un petit commentaire à faire, on n'a pas une petite chose à rajouter. L'une des formidables bonnes femmes de cette association relevait aussi que dans les négociations qui ont trait aux finances, il y a un biais qui est quand même très répandu, qui tend à penser que les femmes ne sont pas très fortes avec les chiffres. Donc, et on peut se faire demander encore... Enfin, moi, ça fait 30 ans que je dirige mon entreprise. Je peux encore me faire demander « Mais tu as une idée de ton plan d'affaires ? Est-ce que tu peux nous faire un petit plan d'affaires ?» Je ne vais pas faire un petit plan d'affaires. J'ai une très bonne idée de mon plan d'affaires. Et là aussi, il faut
corriger, s'affirmer aussi, quoi.
Oui, et apprendre aux femmes à s'affirmer et à si certaines d'entre elles craignent les chiffres, il y a des mecs aussi qui craignent les chiffres.
Bien sûr, il faut apprendre à...
Bien sûr. Soit à s'entourer ou soit à déléguer à quelqu'un.
Oui, à se dire, t'as des bonnes jambes, vas-y, t'es capable.
Oui, exactement. Et ton amie, elle a vraiment un bon truc. T'as des bonnes jambes, t'es capable et ça s'applique à tout. Ça
s'applique à tout. Mais il y a eu... Alors, ça, c'est une étude qui était sortie il y a quelques années. On avait observé des cours de français, de maths, au primaire. Et constaté que dans la grosse majorité, quand un professeur en mathématiques demande... Mais dès le primaire, pose une question, les petites mains se lèvent et le professeur va avoir tendance à demander à un garçon la réponse. Le professeur a tendance à penser que le garçon va être meilleur en maths. Et petit à petit, on plante une petite graine où la petite fille, on ne lui demandera jamais, donc elle n'aura jamais l'occasion de dire 2 plus 2, ça fait 4. Ouais. Et puis du coup, on ne lui dira jamais « bravo, c'est la bonne réponse ». Écrasante majorité. Billet des professeurs qui n'avaient pas du tout l'impression de le faire.
Ben oui.
Et à contrario, en grammaire, en français, on interrogeait davantage les petites filles. Une petite fille, c'est bonne en lettres et un garçon, c'est bon en chiffres. Et donc, il faut vraiment travailler sur ces... Parce que c'est comme ça. Notre société est comme ça, mais il faut qu'on travaille à faire changer.
À la faire changer, et puis ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est à conscientiser. Parce que finalement, il y a des réalités qui prendront du temps à changer, mais chacun, à titre individuel, quand tu portes un regard différent sur ce biais-là qui existe, comme tu disais, le professeur, il ne se rend pas compte. À partir du moment où tu lui dis, et qu'il fait attention à ce truc-là, il fait changer aussi le cours des choses derrière lui. Et on parlait, je reviens un peu sur les métiers de la production, Odile. Ça veut dire que toi, par exemple, quand un scénariste vient te voir, est-ce que c'est toi qui trouves les financements ? Est-ce que tu vois concrètement les étapes de ce métier-là pour qu'on voit l'incidence, tout ce qu'il faut porter, tout ce qu'il faut l'idée en tant que productrice, c'est quoi ?
Alors oui, effectivement, concrètement... dès le début, donc pour avoir un film, une série, ça commence effectivement par l'écrit. Mm-hmm. Et que ce soit moi qui vais chercher quelqu'un parce que
t'as une idée,
parce que j'ai une idée, et je me dis, mon Dieu, c'est la bonne personne, j'ai envie de lui en parler, j'ai lu un livre. Ou quelqu'un qui vient me voir avec un livre, ou parfois un réalisateur qui va venir me voir avec une idée. Mais en tout cas, donc le scénariste, la scénariste ou l'équipe de scénaristes qui travailleront, je dois effectivement financer. Généralement, le premier, j'aime pas tellement l'analogie avec le poker parce qu'on n'est pas des joueurs non plus, mais c'est vrai que le premier chip, c'est quand même c'est le producteur qui le met. Là, c'est voilà, il faut être capable de se dire
j'y crois,
je crois en cette histoire et je commence à financer. Et puis après, plus le développement grandit, on a certaines sources de financement auxquelles on a accès, dépendant des projets, des sociétés de production, de la taille, du cinéma, télévision. Et puis après, rapidement, aller chercher les partenaires qui vont continuer à faire grandir l'histoire à nos côtés. Donc, en télévision, plus ou moins rapidement, on va faire rentrer le diffuseur, pour qui on s'est dit, ah, c'est pour eux que je développe cette idée. Ça va être bien sur leur antenne, c'est leur ADN.
Oui, ça marche bien avec le positionnement, ce qu'ils racontent.
Et donc, qui, à nos côtés, vont continuer à investir. Donc, en France, on co-investit avec le diffuseur. Et puis après, une fois que c'est mûr et qu'on va être prêt à passer à la production, donc l'étape d'après, ça va être réunir les financements avec le diffuseur. Si le développement est allé dans la direction qu'on souhaitait tous et qu'il souhaitait. Et les financements complémentaires, donc dépendant des projets, il y a des financements plus ou moins, des montages financiers plus ou moins complexes, soit avec la coproduction, parce que le territoire national ne permet pas de financer, avec des partenaires externes, des SOFICA, des minimums garantis sur les ventes futures à l'international.
Donc tu fais tout le temps de la négo, en fait, en vrai, en tant que productrice, finalement. Oui. Parce que tous ces interlocuteurs-là dont tu nous parles, ils arrivent chacun avec leurs enjeux, leurs motivations. Tu sens avec les années qui passent que tu t'es devenu plus affûté là sur sentir les gens, comprendre ce qui les motive, ce qui les anime, ou chaque fois là aussi c'est une nouvelle histoire?
Je pense qu'avec les années, l'expérience aide. Quand on a négocié X droits de livre, scénario, convention littéraire, on a vu plein de cas de figure différents et on est un petit peu plus sûr de soi. Alors, c'est vrai qu'il y a sur certains secteurs, il peut y avoir des pratiques commerciales où on attaque une négociation super haut pour que l'autre attaque super bas. Après, il y a des sensibilités. Moi, ce n'est pas tellement mon... Parce que je suis productrice indépendante, donc je suis très proche des talents avec lesquels je collabore, comme très proche des diffuseurs avec lesquels je vais développer. Donc, c'est peut-être personnel, mais ma vision, elle est vraiment d'arriver à avoir des négociations. Pour moi, une négociation saine et une négociation... Je parle dans le cadre vraiment d'un film, d'une production, et pas nécessairement, par exemple, des négociations interprofessionnelles que je peux avoir dans le cadre des représentations que j'exerce dans le cadre de ma profession, mais... La négociation autour d'un film ou d'une série, je trouve que je travaille avec des partenaires. Alors, le scénariste, je ne vais pas négocier avec lui, je vais négocier avec son agent. Mais je n'aime pas tellement les négociations où on va démarrer. Moi, j'appelle ça le souk de Marrakech.
Mais oui, c'est ça. C'est du marchandage. Tu veux 100, je te donne 10. C'est pas dans ce sens-là. Rapport plus intelligent, entre guillemets, sur la durée, sur comprendre, sur aboutir finalement au projet aussi. Plutôt que de...
Parce que je trouve que ça peut créer des tensions quand on démarre trop loin, ça finit toujours par abîmer. Alors, heureusement, il y a des intermédiaires. Parce que si j'étais en négociation avec le talent, ça pourrait pour le coup vraiment abîmer. Mais même avec leurs agents, qui sont des gens avec qui on collabore année après année, c'est des rapports que j'essaie d'éviter.
Ouais. Oui, tu préfères quand c'est sain et de confiance et en bonne intelligence finalement. Sinon, ça veut peut-être dire que ça ne doit pas se faire comme ça. Au final, on est si éloigné que ça sur la vision
exactement. Mais je ne suis peut-être pas la meilleure négociatrice sur Terre, mais c'est vrai que moi, je préfère assez rapidement abattre mes cartes, si on peut parler comme ça, et dire voilà...
Allons-y comme
voilà,
ça.
Voilà le contexte, voilà ce qu'il y a sur la table, voilà d'autant plus que je fais à 95% de l'audiovisuel, ce qu'on appelait de la télévision. Non, mais l'audiovisuel versus le cinéma. Le cinéma a des budgets plus fluctuants.
Et est-ce que tu as souvenir dans les prods que tu as pu gérer toi, tu vois, de vraiment quelque chose de difficile, d'éprouvant, de... où tu vois, tu t'es dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ce métier, enfin... Parce qu'on imagine, vu le nombre de projets, de sujets, puis tu as quand même des stars aussi dans les prods que tu portes, donc ça met de la pression tout ça.
Alors sur chaque film, il y a des moments difficiles avec des... Parce qu'effectivement, comme une productrice et la chef d'orchestre, à un moment, elle se retrouve quand même au croisement entre des désirs et des volontés qui... De certains membres ou talents de l'équipe qui peuvent être contraires. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression qu'on est dans un cul-de-sac et il finit toujours par avoir une solution. Donc là, comme ça, je vois pas. Mais une fois, j'ai eu ça m'est arrivé d'avoir des négociations difficiles qui n'ont pas abouti. Mais ça m'est arrivé récemment d'avoir un problème de générique, en fait. Et j'avais vraiment l'impression qu'on irait au conflit. Qu'on serait obligé d'aller au conflit. Moi, je ne pouvais pas sortir mon film parce que je ne pouvais pas faire le générique. Donc, j'étais un peu...
Oui, c'est un peu...
Et là, vraiment... Et donc, j'ai découvert la médiation. Mais je suis allée en me disant, bon, ben voilà, c'est la dernière chance. Puis comme ça, si on va au procès, au moins, je pourrais bien dire que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je pensais qu'on sortirait sans solution. On était tellement... irréconciliable.
Et puis crispé sur chacun de vos positions, finalement.
Et en fait, on est sorti avec une solution. Et j'ai beaucoup appris, lors de cette médiation, et tellement que je me suis proposée comme médiatrice, puisqu'il faut des professionnels du métier pour...
accompagner, finalement.
Et j'ai fait la formation pour devenir médiatrice, que j'ai trouvée absolument, absolument fascinante. On n'est pas loin de la négociation, la médiation.
Non, la médiation, la négociation. Et qu'est-ce que tu as appris, enfin, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce que tu as...
Alors, la mise à distance, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, le pas de côté. Un médiateur n'est pas... Et quand je te disais que je pense que je peux être une piètre négociatrice parfois parce que je suis trop impliquée...
Tu le ressens là.
Beaucoup les scénaristes qui ont des agents.
Et oui.
Moi, je suis productrice indépendante. Alors, bien sûr, j'ai un cabinet d'avocats qui m'accompagne et qui est formidable et qui prend le relais à un moment de la négociation. Mais les grandes lignes, c'est moi qui les établis. Et donc, ce pas de côté que j'ai appris à faire en médiation est extrêmement intéressant en négociation aussi. C'est vraiment de réussir à faire le pas de côté.
Oui, même... porter un autre regard finalement sur la situation aussi.
Oui, porter un autre regard, mais être neutre.
Oui.
Et même si on négocie pour soi-même, c'est bien des fois de se dire je suis neutre, je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, je regarde, je m'élève, je regarde la situation.
Ce qui n'est pas facile non plus quand on est seul, hein, je rebondis, parce que souvent les négos, ils bossent en équipe. C'est-à-dire, t'en as un qui est au contact, qui est dans le feu des émotions, des échanges, de toute cette énergie humaine-là. Et puis, t'as celui qui, son binôme, qui a ce job-là de superviser. C'est-à-dire, mais quand il te dit ça, il met son truc. Pour avoir cette dualité comme ça dans la vision, le HO, et puis celui qui va plutôt être à décider. Donc, tu vois, quand tu dis, mais moi, je me sens pas être une bonne négociatrice, c'est aussi parce que c'est spécialement compliqué de faire les deux jobs en un, finalement.
Oui, alors après, c'est vrai qu'encore une fois, je suis accompagnée par un cabinet d'avocats. Et donc, en l'occurrence, dans ce cabinet, toujours la même avocate qui me connaît bien et avec qui je peux jouer ce bon cop, bad cop. Bon cop, bad cop.
Non, mais c'est répartir peut-être un peu plus les rôles, finalement, dans la gestion quotidienne des sujets.
Ouais.
Et est-ce que tu dirais, Odile, là, sur ce parcours-là, toi, parce que tu as construit ta vie aussi personnelle, il y a eu des choses que tu as eu à négocier avec toi?
Alors, ça c'est pareil, c'est en regardant derrière. Et encore une fois, sans regret, parce que ça ne sert à rien. Mais quand mes enfants étaient jeunes, j'étais en perpétuelle négociation avec moi-même, parce que quand j'étais à la maison, j'avais l'impression que je travaillais pas assez, et quand j'étais au bureau, j'avais l'impression que je m'occupais pas assez de mes enfants. Ouais. Et c'est un poids pour les femmes. Alors je pense que les jeunes femmes aujourd'hui partagent quand même mieux. On en parle beaucoup, la charge mentale.
Bon, l'équilibre aussi dans les couples, peut-être, qui est parfois un peu plus, un peu mieux réparti.
Oui, je pense. Alors moi, j'ai la chance de partager ma vie avec un homme merveilleux, avec qui je découvre le partage. Alors, tous nos enfants sont grands et on n'a plus que nous-mêmes et nos plantes vertes à s'occuper. Mais je découvre que ça existe. Mmh. Oui, un partage tout à fait équilibré. Et, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de négociations avec moi-même.
Oui. Quand ils étaient petits, principalement.
Ouais. De qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, ou même des choix professionnels. Alors là, j'ai pas tellement négocié, en fait. J'ai fait des vrais choix professionnels pour être présente. Mm-hmm. Donc j'ai refusé de voyager, j'ai refusé certaines...
Ça, c'était pas négociable pour toi, finalement.
Ouais. Où mes 2 mois étaient d'accord.
Mm. Oui, c'est ça. Mais c'est précieux, parce que sinon, c'est un conflit intérieur très difficile à vivre, en fait, en permanence.
Ouais. Et si on revient à la médiation, en fait, je trouve que c'est très sain professionnellement de savoir c'est pas se couper en deux, mais j'ai l'impression de mieux connaître, peut-être parce que je me connais mieux moi-même aussi, mais il y a Odile professionnelle, donc comme productrice, et puis au sein des associations ou des positions que j'ai acceptées récemment. Et il y a Odile à la maison.
À la maison.
À la maison, ou dans sa vie, ou avec ses filles. Mmh. Et de réussir à séparer les deux.
Ouais.
Et je trouve ça très intéressant que tu parles de négociation avec soi-même.
Et oui.
Mais c'est voilà, et respecter les deux.
Et être en paix avec ça aussi. C'est souvent les jeunes femmes qui viennent à ce micro-là, c'est un point récurrent qu'il y a sans doute chez les hommes aussi, mais là, nous, l'angle qui nous intéresse est plutôt celui des femmes. Et c'est vrai que souvent, il y a ce point, la maternité cristallise aussi beaucoup ces sujets-là. Est-ce que ça, j'accepte? Est-ce que ça, j'accepte pas? Et comme tu dis, les 2 mois étaient d'accord. Et c'est très, très libérateur de se dire j'aurais pas ça. Je peux me déplacer ou découcher, mais c'est OK parce que mon bénéfice sera plus grand à faire ça. Pour le moment, c'est comme ça. Et quand on t'écoute, on voit bien que ce n'est pas ce qui empêche de faire une carrière ou de mener des beaux projets ou de s'impliquer. Donc finalement, il ne faut pas renoncer quoi, dans ce que tu dis.
Oui, pas hésiter à se mettre au clair avec soi-même en sachant que ça peut changer.
Oui.
Parce que si année zéro... On n'est pas OK avec voyager, on veut pas quitter la maison ou pas plus de deux dodos, je sais pas, une ou deux nuits. Mais en année 0 plus 2 ou plus 3, ça peut changer. Donc il faut se méfier des grands principes posés comme ça. Moi, je suis une mère qui fait comme ça. Bah, tu es une mère qui fait comme ça aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui.
Demain, ça a le droit de changer.
Et ça fait du bien de l'entendre parce que ça n'inscrit pas ça dans un truc immuable et qui est là pour toujours. Quand nos enfants sont petits, on fait comme ça. Quand ils sont moins petits, on fait encore différemment. Et au final, c'est aussi d'être bien avec soi-même, comme tu décris.
Oui, puis on a des carrières plus hachées qu'avant, je pense. Et moi, je constate autour de moi qu'il y a des couples qui ont une très belle, un très beau partage avec parfois l'un ou l'une qui a une grosse poussée professionnelle, donc qui est moins disponible, ben c'est le papa qui va être un peu plus là, et puis après, hop, les choses changent, ben tiens, là, c'est moi, j'ai ça.
Ça s'équilibre, ouais, c'est comme un balancier finalement, qu'il faut aussi sans doute un peu négocier peut-être.
Oui, parce que des fois, c'est les deux en même temps qui sont très occupés, donc là, il faut négocier, mais moi, ça, je l'ai vu un petit peu autour de moi, et j'ai trouvé ça très beau, des jeunes femmes qui me disent, ben voilà, là, j'ai eu une opportunité absolument extraordinaire, ben là, mon mari, lui, il a plus la possibilité d'être à la maison, donc...
Il prend le relais.
Il travaille à la maison, il prend le relais, et alors que, je pense qu'il y a 30 ans ou 20 ans, on disait pas ça, hein. C'était un petit peu...
C'est les femmes qui portaient plus tout, finalement, parce que quand tes filles étaient petites, tu gérais la maison, les filles, le boulot...
Oui, alors bon, le père de mes enfants était plus âgé que moi, donc lui venait encore d'une autre... mais le partage s'est fait assez... Je l'ai pris bien volontiers aussi, mais c'est vrai qu'on était sur un partage un petit peu plus classique de l'époque. Classique dans le sens, les grands classiques, des tâches, oui.
Je fais tout et il fait le reste.
C'était un peu stéréotypé, voilà. Bon,
ouais. Ouais, c'était une autre époque aussi, finalement.
Oui, et puis on l'a fait très... voilà, c'était pas... Pour le coup, il n'y avait pas de tension.
C'était comme ça. Et alors, Odile, on s'approche de la fin de notre rencontre. Si tu te retournes, là, souvent tu nous as dit, on regarde en arrière. Le grand message, tu vois, que tu aurais aimé que Odile, à 20 ans, 19 ans, quand elle arrive à Paris, entende, ou que tu voudrais partager avec les jeunes femmes qui nous écoutent, ce serait quoi?
J'ai envie de leur dire de se faire confiance. De se faire confiance et dans les moments de doute, de savoir qu'elles peuvent et qu'elles doivent aller chercher autour d'elles de la ressource, auprès des communautés de femmes, auprès des associations, auprès de voire même de créer un collectif de jeunes femmes qui partagent le même métier, les mêmes pour se donner un regard, un recul dont on a parlé, un encouragement, se faire confiance et aller chercher les relais de confiance autour d'elle, parce qu'on est plus, forte à plusieurs.
Ça, c'est puissant, ouais. C'est vrai surtout. Toi, c'est ce que tu ressens là aujourd'hui. Tu nous parlais de tes engagements, au-delà de ton métier de productrice d'ailleurs. Tu le ressens dans ton quotidien, dans le regard que tu portes sur les sujets, sur toi-même que...
Voilà. J'ai découvert une forme d'investissement dans la vie associative et officielle. Je ne sais même pas comment l'appeler de mon métier. Donc, je suis au conseil syndical de l'USPA, de l'Union syndicale de la production audiovisuelle. Je suis à la commission fiction d'Unifrance. Je cumule un peu et je suis très heureuse de faire partie de Pour les femmes dans les médias et d'être mentor dans mon programme de mentorat. Et je découvre que les échanges, les partages que je peux avoir au sein de ces différents postes ou positions m'amènent énormément. Parce que je me rends compte que parfois j'ai des interrogations dont je pense que je suis la seule à traverser ce terrible truc, et puis t'en parles avec une, deux, trois, puis c'est tout pareil. Puis une fois qu'on en a parlé, ça va beaucoup mieux finalement, c'est pas si grave que ça. Et je me dis, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais je me faisais pas confiance. Et donc, un message, trois mots, faites-vous confiance. Faites-vous confiance.
Merci Odile.
Merci à toi.
C'était un nouvel épisode des Négociatrices. Par leur générosité, leur partage et leur enthousiasme, chacune des invitées nous montre qu'une autre façon de faire et de vivre est possible. La négociation est à la portée de chacune. À nous de nous emparer de cet outil efficace. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur www.adngroup.com.